Notre première lecture biblique se trouve dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 23 à 26. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le diacre, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Et la deuxième lecture est écrite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 23 à 26. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un est mon diacre, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon diacre. Si quelqu'un est mon diacre, le Père l'honorera. »
Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Le week-end dernier, c'était le synode de notre Église protestante unie en Centrale-Perronne. Au cours de ce synode, on fait beaucoup de choses, notamment une des choses importantes, c'est de se mettre d'accord sur un texte d'orientation, sur un texte dont les églises vont pouvoir se saisir. Alors, pour tout vous dire, ce texte, cette année, il n'est pas extraordinaire, mais il a le mérite d'exister. Il mérite d'exhorter les églises à continuer leur action suite à ces 100 ans de la réforme qui a motivé les églises, notamment motivé les églises à se faire connaître au cœur de la cité, donc les exhorter à continuer leur action, à continuer à mettre de l'énergie, à témoigner au cœur de ce monde que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais voyez-vous, pour moi, le plus important dans les synodes, ce n'est pas forcément ces textes, ces temps où l'on prend du temps, quelquefois, à discuter sur une virgule, sur un point-virgule, sur un mot. Mais le plus important pour moi, c'est des paroles qui viennent, qui n'étaient pas prévues, des témoignages qui arrivent comme cela, de manière un peu imprévue. Ce sont des rencontres qu'on peut faire avec des gens autour d'un café, à table. C'est moi, pour moi, finalement, c'est cela le plus important. Et je voudrais partager ce matin, en début de prédication, une parole qui est venue d'un collègue pasteur que vous connaissez bien, Alain Arnoux, qui termine son ministère et qui a partagé avec nous de manière très profonde et très belle combien son ministère avait été pour lui source de joie, bien sûr, mais aussi source de peine, et qui a osé partager avec nous ce qui est une vraie question pour moi en tant que pasteur, mais aussi pour moi en tant que conseiller presbytéral, pour moi en tant que membre de cette Église protestante unie de Grenoble, cette parole, je ne suis pas sûr aujourd'hui, dans les conditions actuelles, si je recommencerai un ministère. Parole éminemment forte. Disant qu'il lui semblait que le ministère pastoral avait évolué, que de plus en plus il était difficile d'être pasteur, et que donc il se posait la question de savoir comment susciter des vocations dans notre Église. Et c'est une vraie question, puisque il semble bien que nous allons, dans les années à venir, manquer de pasteurs. Et oui, étonnant, manquer de pasteurs, à cause d'un fait sociologique, le baby boom, hein, toute une classe d'âge arrive à la retraite, mais aussi peut-être parce que les jeunes ont moins d'envie, sont moins appelés à être pasteurs. Alors il faut nous poser la question, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que nous ne leur demandons pas assez, nous n'évoquons pas assez cette possibilité d'être pasteur dans notre Église? Ou est-ce que la charge devient si lourde que peut-être on hésite avant de se lancer dans cette aventure, parce qu'il s'agit, comme tout ministère, d'une aventure. Alors, Alain Arnoux disait qu'il était temps pour l'Église de se poser la question des ministères, de revisiter la question des ministères et peut-être d'élargir la dimension des ministères, de ne pas tout focaliser sur le ministère pastoral. Et on serait là, après tout, dans ce qu'est la réforme, le sacerdoce universel. Et il posait, comme ça, de manière libre, dans son témoignage, la dimension de diacre, de diaconie. N'est-il pas venu de réinvestir le champ de la diaconie, en tout cas, de réinvestir le ministère diaconal et d'établir un vrai et grand ministère diaconal au cœur de notre Église? Ministère diaconal qui ne serait pas un sous-ministère du ministère de pasteur, mais un vrai et beau grand ministère diaconal. Moi, je ne suis pas loin de penser la même chose. Il me semble, et ce sera le point de ma première partie de cette prédication, que les textes ce matin nous appellent justement à réinvestir la grandeur de ce ministère diaconal. Peut-être si vous avez fait attention aux lectures bibliques à Filtrud, peut-être vous avez été perturbé par la traduction dans le texte, par la venue dans le texte du mot diacre. Je vous relis parce que des fois ça va un petit peu vite tout de même. L'apôtre Paul qui parle, l'apôtre Paul, apôtre de la parole, lui qui se considère comme l'apôtre du Christ, lui qui est appelé à témoigner du message du Christ dans l'univers entier. Voici ce qu'il dit, c'est d'elle que je suis devenu le diacre conformément à la charge que Dieu m'a confiée, et d'elle, il s'agit de l'Église, l'apôtre Paul se perçoit comme le diacre de l'Église. Parole éminemment forte. Jusqu'alors, il me semble que c'est un peu la manière dont nous vivons, la manière dont nous envisageons la diaconie dans notre Église. Il y aurait d'un côté ce qu'on peut appeler le service de la parole, le service de la prédication, assuré par les prédicateurs laïcs, assuré par les pasteurs, et de l'autre côté, il y aurait le service de la diaconie assuré par les diacres. Eh bien, nous dit l'apôtre Paul, ceci est totalement arbitraire. Il y a un seul ministère. Et Jésus le dit dans l'évangile de Jean, il y a un seul ministère, c'est celui de me suivre. Il s'agit de suivre le Christ, de le suivre en portant la parole, de le suivre en portant secours au corps. Il s'agit de le suivre alors, diaconie et service de la parole et apostolat, un seul ministère, que je résume dans cette formule que j'ai déjà partagée avec certains d'entre vous. Nous sommes appelés à être diapôtres, à la fois apôtres et à la fois diacres, les deux en même temps. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, nous le dit aussi de manière très précise. Je vous redis la traduction qui est la juste traduction, puisque dans l'évangile de Jean, j'ai regardé le grec, c'est le mot « diacre » qui est convoqué. C'est pas le mot « serviteur », c'est pas le mot « ministre », c'est la traduction qu'on en donne en français, mais vous entendez bien que quand on traduit par « ministre » ou « serviteur », on n'entend pas la dimension diaconale. Or, dans le texte, c'est bien le mot « diacre » qui est employé. Je vous relis les paroles du Christ. Si quelqu'un est mon diacre, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon diacre. Si quelqu'un est mon diacre, le Père l'honorera. Et juste avant, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Avec ces paroles de Christ, vous l'entendez bien, nous sommes au cœur de l'Évangile. Nous sommes au cœur d'un Dieu qui s'incarne, au cœur d'un Dieu qui prend corps, au cœur d'une révélation de Dieu qui nous dit que cette vie dans le monde est une vraie vie, et que nous avons à en prendre soin, que nous avons à nous en occuper. Ces paroles de Jésus nous disent aussi ce qui est pour moi essentiel, c'est que la diaconie n'est pas quelque chose de parallèle à l'Église. Que la diaconie n'est pas un service social de l'Église. Mais que la diaconie est au cœur de l'Église. Que la diaconie est liée au Christ. Que la diaconie est de l'ordre de la suivante du Christ, comme disait Bonhoeffer. Mais que la diaconie est aussi, bien sûr, au cœur de l'Évangile, parce qu'elle est de l'ordre de la vie donnée, de la vie reçue, du partage. Il nous faut, je le crois et je l'entends en tant que pasteur de cette église, entendre cette parole éminemment forte. Nous n'avons pas à choisir entre service de la parole, service de l'esprit, service du cœur, service de l'âme et le service du corps. Le service du corps et le service du cœur sont un même et seul service. Ce que nous dit l'apôtre Paul par sa vie, ce que nous dit le Christ par sa vie, le Christ bien sûr, le diacre par excellence. Si nous sommes d'accord sur ce point-là, que diaconie et apostolat sont un seul ministère, si qu'au cœur de tout culte alors il devrait y avoir une dimension diaconale, comment faire retentir cette dimension diaconale au cœur de nos cultes ? Jean-François Zorn, qui était pasteur et aussi professeur de théologie à la faculté de théologie de Montpellier et de Paris, nous donne des pistes. Il me semble que ces pistes ont inspiré notre Église protestante unie de Grenoble dans la manière dont elle a de célébrer le culte. Voilà ce que nous dit Jean-François Zorn. Il nous dit qu'au cœur de notre culte, il y a quatre instants qui ont une dimension, qui devraient avoir une dimension diaconale. Le premier de ces moments, le premier de ces instants, c'est le moment de la Sainte Cène, qui pour Jean-François Zorn est éminemment diaconal, bien sûr. La Sainte Cène, qu'est-ce que c'est sinon à la fois le service de l'Esprit, de la parole, je suis au milieu de vous, mais aussi le service du corps, nous mangeons, nous buvons, nous donnons droit à notre corps. Et qu'est-ce que la Sainte Cène sinon aussi une expérience diaconale avec ce même pain et ce même vin partagé, symbole de nos vies à partager, symbole de nos joies, de nos peines à partager, symbole aussi bien sûr de nos richesses à partager. La Sainte Cène comme métaphore diaconale et comme moment de communion fraternelle à laquelle nous appelle le Christ. Deuxième temps, éminemment diaconal pour Jean-François Zorn aussi, les annonces. Les annonces qui nous rappellent à nous qui sommes entrés dans ce temple, fermé pour une part, que le monde continue à exister et que le monde est appelé à venir nous rencontrer, que nous sommes appelés à aller rencontrer le monde. Alors les annonces comme ce temps de respiration où notre célébration, notre culte entre en résonance avec les préoccupations du monde. Résonance éminemment importante. Annonce qui va être portée, troisième temps diaconal pour Jean-François Zorn, par la prière d'intercession. La prière d'intercession comme geste diaconal, j'en suis intimement persuadé. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul, au moment où il quitte la communauté d'Éphèse, en pleure. Tout le monde pleure ce jour-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se revoir si l'apôtre Paul encourage la communauté des Éphésiens à prier, à rester fidèles dans la prière comme geste diaconal, la fidélité dans la prière à ceux qui ont besoin du soutien, de notre soutien. Et puis, la prière d'intercession aussi comme geste diaconal, parce qu'elle dit à Dieu nos limites. Parce qu'elle dit à Dieu notre impuissance, parce qu'elle dit à Dieu notre incapacité à résoudre, bien évidemment, tous les problèmes de ce monde. Mais parce qu'elle dit aussi à Dieu, écoute, tu sais de quel bois nous sommes faits, eh bien, si tu veux que nous soyons diacres ou apôtres, eh bien, souffle sur nous ton Saint-Esprit. Et enfin, pour Jean-François Zorn, quatrième temps, diaconal par excellence, le temps de l'offrande, bien sûr, qui est un temps de mise en pratique de la prière d'intercession après avoir laissé le monde venir nous parler dans le temps des annonces après avoir prié pour le monde, dans l'intercession, l'offrande et ce premier geste où nous partageons ce que nous avons reçu de Dieu pour permettre, pour une part, pour une faible part, de combler un peu de souffrance, de solitude et de mal-être dans ce monde. Alors j'espère vous avoir convaincu que la diaconie est au cœur de toute vie chrétienne, est au cœur de tout ministère, est au cœur de chaque vie ecclésiale, et je me réjouis qu'à Grenoble, elle le soit véritablement au cœur. Et puisque j'ai commencé en vous faisant écho du synode, j'aimerais terminer par une autre prise de parole pendant ce synode qui m'a touché, que j'entends aussi comme une exhortation diaconale. Je vous ai parlé d'Alain Arnoux, je vais vous parler de Sonia Arnoux, que vous connaissez, qui elle aussi a décidé de mettre fin à son ministère en même temps que son mari. Elle a terminé son ministère, non plus en ville, mais à la campagne. Elle nous a partagé cette préoccupation des pasteurs à la campagne, des églises à la campagne, de devoir accompagner quelquefois la fin de vie d'une église, de devoir faire beaucoup plus d'enterrements que de baptêmes. Et elle nous a partagé ce souhait, cette demande, cet appel à ce que les églises un peu plus dynamiques, comme les églises en ville, en tout cas qui ont la grâce, la chance encore d'avoir un peu de jeunesse, un peu de dynamisme, un peu d'activité, puissent venir partager ce dynamisme, cette activité, cette jeunesse avec les églises des campagnes. Et je reçois vraiment cet appel comme un juste et vrai appel diaconal, comme une manière au sein de notre région, au sein de notre Église, d'être en communion les uns avec les autres. Il n'y a pas un ministère de la campagne comme un ministère des villes. Nous sommes appelés, tous les ministères, à œuvrer ensemble et à communier ensemble pour témoigner de ce qui est l'essentiel, que je n'ai peut-être pas assez souligné ce matin au cœur de cet évangile de Jean. Dieu qui en Jésus-Christ se donne. Dieu qui en Jésus-Christ se donne afin que nous ayons la vie, afin que nous puissions porter du fruit en abondance. Amen.